Et je disais que quand j'avais dans mes 20 et quelques années, dans ma famille, il y a eu des problèmes psychiatriques dont vous parliez, auxquels j'étais très proche mêlée, donc qui sont mal finis. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des enfants qui sont dans les 20 et quelques années et qui me disent que suite au Covid, ils ont beaucoup d'amis qui vont pas bien, alors ils sont soit sur Paris, soit ailleurs. Et en fait moi, de fait de mon histoire personnelle, en fait, c'est une tranche d'âge qui me fait peur, dans le sens où je ne sais pas comment faire pour les protéger, moi qui suis plus âgée maintenant, et je ne sais pas comment même déceler des choses, je me dis, j'ai envie d'être très très vigilante pour cette tranche d'âge, d'autant que j'entends dire par mes enfants qu'il y en a beaucoup qui se sont beaucoup fragilisés avec les suites du Covid, et je voulais savoir si vous avez une expérience avec cette jeunesse actuellement, et qu'est-ce qui se fait dans le coin ou ailleurs, et comment on peut, nous, adultes, essayer d'être plus protecteurs vis-à-vis de vous, je ne sais pas comment vous voulez.
Merci. Alors d'abord, pour répondre sur les ressources sur le département, on a un lieu qui vient d'ouvrir et qui est une grande ressource et qui nous manquait beaucoup et qu'on attendait depuis longtemps. C'est la maison des adolescents qui a ouvert à Rodez, qui est ouvert pour les adolescents. En fait, c'est beaucoup plus large que ça puisque c'est de 12 à 25 ans. Donc 25 ans, ça permet aussi aux étudiants de pouvoir avoir accès. C'est un lieu qui se veut ouvert aux jeunes. C'est-à-dire que c'est pas que un lieu de médical, de psychiatrie, etc. C'est aussi un lieu d'espace où ils vont pouvoir trouver des informations, planning familial, les substances de type cannabis et autres, les drogues. Enfin voilà, c'est un point info jeune mais élargi avec un accès potentiel aux soins de leur propre chef, mais aussi un point renseignement pour les gens qui se posent des questions sur comment accompagner les jeunes. Donc dans votre cas, ça peut être déjà un premier endroit où aller trouver des informations et éventuellement ensuite amener aux soins, puisqu'il y a des pédopsychiatres, il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a toutes les équipes classiques, voilà. Donc ça a ouvert récemment et je vous conseille d'en parler autour de vous, notamment aux jeunes, parce que de l'expérience qu'on a, par contre, malheureusement, en tant que l'accompagnement des enfants, c'est assez facile. Les parents ont encore un pouvoir décisionnel, donc ils peuvent emmener facilement l'enfant, consulter quand il y a des difficultés. Au passage, toujours dans l'idée de sortir un peu des représentations, il n'y a pas de honte à emmener son enfant faire une consultation. Moi, j'ai reçu des enfants pendant des années, et il y en a même que je recevais une fois par an pour faire le point. C'était leur espace. Ça permettait de vider. Parfois, il y a des vrais symptômes, mais parfois, c'est juste un endroit où on peut discuter. C'est valable pour les adultes aussi. Hein. Je le dis pour les enfants, mais voilà. La tranche d'âge où c'est plus compliqué, c'est les adolescents. Parce que de par leur manière de fonctionner, leurs idées, leur développement, ils sont parfois un peu en rébellion avec ce qu'on leur propose, de fait. D'où l'intérêt d'ouvrir des lieux qui leur sont disponibles sans le passer par un adulte référent. Parce que quand c'est le parent qui dit « tu vas pas bien, je vais t'emmener chez le psy », malheureusement, souvent, ça fonctionne pas. Parce que ils n'ont pas envie, ils se sentent contraints. Et puis, après, il y a une histoire aussi d'échange. Hein. On en parlait un peu en off tout à l'heure, aller chez le psy, c'est rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est aléatoire. On ne choisit pas forcément vers qui on va. Et les affinités, enfin, je ne sais pas ton expérience de soins, mais je sais que moi, en tant que soignante, il y a eu des patients où je savais que ça passerait jamais. Et du coup, je les ai orientés vers d'autres collègues parce que ça ne servait à rien, je ne pouvais pas les aider. Donc c'est peut-être de trouver le bon interlocuteur. Il y a plein de dispositifs. Alors, vous m'amenez justement sur quelque chose d'intéressant que j'avais oublié d'évoquer. Le Covid a permis des choses, notamment l'État a enfin pris conscience qu'il y avait peut-être à se préoccuper de la santé mentale des Français. Donc ils ont ouvert des tas de possibilités. Alors pendant le Covid, on a eu des cellules d'urgence, on a eu plein de trucs. Et puis... nous, on avait un peu peur que ça s'arrête après, en toute franchise. On s'est dit, c'est facile, là, il y a la crise, voilà. Mais ça perdure. Le problème, c'est que c'est un peu monté, comment dire ça, à la va-vite, sans réfléchir, sans consulter les professionnels également. Alors, dans le cas des étudiants et des jeunes, ce qui a été proposé est assez adapté. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on leur a proposé une forme de gratuité des soins, parce que souvent, on sait que sur ces périodes d'étudiants, notamment, ils n'ont pas forcément les moyens, ou pour certains, ce n'est pas la priorité. il ne s'agit pas du tout de jugement, c'est normal, il y a d'autres priorités à ces âges-là. Donc, leur permettre de leur ouvrir l'accès en enlevant l'aspect financier, c'était un début. Donc, il y a les mutuelles qui remboursent, il y a des centres spécifiques dans les universités qui ont ouvert avec des psychologues en libre-service, si je puis dire. Voilà, il y a des fils téléphoniques, il y a également par Internet, via des visios. Il y a plein de choses possibles, et sur ces publics de jeunes, c'est une très bonne chose, parce qu'on sait que c'est... Ils ont parfois besoin de passer par d'autres moyens que le moyen classique, que d'aller chez un médecin pour eux. Donc ça, c'est une première chose. Et puis le gouvernement a voulu se pencher sur la problématique de gratuité et de financement des soins psychiques. Et alors là, ça coince un peu, pour être honnête, parce qu'ils ont fait des propositions intéressantes au départ, sauf que ça a été fait sans consultation. Et du coup, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et surtout, ça vient en remplacement d'une politique qui dure depuis des années. Donc notamment, on en parlait un peu là à l'extérieur, depuis au 1er janvier 2022, les consultations psychologues vont pouvoir être remboursées par la Sécurité sociale, avec un dispositif qui demande l'adhésion des professionnels. Autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Parce que ce qui est proposé par le gouvernement, c'est... Alors, au niveau financier, c'est ne pas prendre en considération le coût que ça a pour un psychologue aujourd'hui qui ouvre un cabinet, par exemple. Le psychologue, il n'est pas reconnu comme médecin, donc il n'était pas affilié Sécu depuis, il n'a jamais été. Et en l'affiliant Sécu, on lui propose un remboursement de 30 euros la séance. Quand on sait qu'un psychologue a 50% de charge en libéral, ça veut dire que pour une séance, il touche 15 euros. Une séance qui, en plus, est minutée, puisque la proposition du gouvernement, c'est des séances qui durent une demi-heure, voire plus, si le psychologue est d'accord. Mais à 30 euros, il n'ira pas plus loin. Donc 30 euros pour 30 minutes, ce n'est pas beaucoup. Quand on a pratiqué, enfin, je ne sais pas ce que tu en diras, mais quand on a pratiqué les séances chez le psy, on sait qu'en 30 minutes, ce n'est pas assez. Une séance moyenne, c'est 45 minutes, une heure, et encore, parfois, quand on reçoit des couples ou des familles, on est sur une heure et demie. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que le parcours de soins, parce que évidemment c'est sécu, donc ça veut dire qu'il y a des protocoles. Le protocole, c'est pour pouvoir aller consulter un psychologue et être remboursé, il faut d'abord aller chez son médecin traitant. Donc ça, c'est un premier problème, parce que nous, on a plein de patients qui ne vont pas chez les médecins traitants raconter leur vie. Ensuite, et en plus, pour que le médecin traitant passe vers un psychologue, il faut qu'il ait un minimum d'informations. Donc ça veut dire qu'on lui livre déjà des choses. Et puis, au passage, c'est une consultation chez le médecin, hein, déjà. Ensuite, le médecin, il va donner une prescription de 10 séances de 30 minutes remboursées par la Sécurité sociale sur une liste de professionnels qui ont adhéré au dispositif. Donc, vous ne choisissez pas votre praticien. Ça, c'est le deuxième problème. Le problème sous-jacent, c'est qu'aujourd'hui, les psychologues qui vont pouvoir et souhaiter adhérer à ce dispositif, et on ne les en blâme pas, ça va être principalement des jeunes psychologues qui démarrent et qui ont besoin de se créer une patientèle. J'enlève pas leurs capacités et leurs compétences, mais voilà, il faut quand même savoir qu'un psychologue qui a une patientèle, qui a l'habitude de payer 50 euros la séance et qui va la garder parce qu'on est habitué à lui, et forcément, il n'y aura pas des gros dispositifs. Ensuite, une fois que vous avez fait vos 10 séances, le psychologue doit faire un compte-rendu. Compte-rendu qu'il doit transmettre au médecin si la personne veut être represcrite, mais aussi à la Sécu pour qu'il y ait remboursement. Donc on a un petit problème là qui est de l'ordre de la déontologie, de l'éthique et du secret professionnel. Alors même s'il ne s'agit pas d'étaler tout un tas de choses de la vie de la personne, il s'agit quand même d'aller donner des éléments diagnostiques. Et ça, nous, ça nous pose un vrai gros problème. Et puis le dispositif, il ne s'arrête pas là, parce qu'au bout de 10 séances de 30 minutes, ce qui, entre parenthèses, ça ne fait vraiment pas beaucoup, hein, pour pouvoir avoir le temps d'exposer sa vie. Si vous voulez un renouvellement, il faut donc retourner chez le médecin. Retourner chez le médecin, qui, lui, va vous envoyer vers un psychiatre, qui va aller expertiser, vous avez bien besoin de séances en plus. Et puis une fois que le psychiatre aura fait son compte-rendu, vous retournerez chez le médecin, qui vous prescrira les 10 séances supplémentaires. On marche sur la tête derrière des histoires de financement, parce qu'il faut quand même dire ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sur le territoire français 800 postes de psychologues non pourvus qui ont été carrément éliminés, des CMP, des territoires, etc. Et à la place, on rebascule sur du privé et avec un coût qui n'est pas satisfaisant. Donc ça, c'est un problème. Néanmoins, On a quand même aujourd'hui des psychologues en exercice, des psychiatres en exercice en libéral aussi, qui s'affranchissent un peu de tout ça. Des psychologues qui, pour la plupart, depuis plusieurs années, là aussi, ça a été un effet de message du gouvernement, mais les mutuelles remboursent de plus en plus les psychologues, et ça, c'était bien avant les mesures Covid. C'était le cas depuis de nombreuses années. Moi, quand je me suis installée, à l'époque, c'était en 2011, et il y avait déjà des mutuelles, la MSA, la mutuelle des fonctionnaires. Il y avait vraiment des tas de mutuelles qui prenaient en charge. Et les psychologues sont relativement facilitants par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé d'attendre pour facturer, parce que la mutuelle estimait que ça y est, on est arrivé au niveau où ils ne remboursaient plus, donc on attendait, et puis on refaisait la facturation pour après. Voilà. Bon, ça c'est la parenthèse, mais c'était important quand même que vous soyez informés, parce que c'est un faux effet. Je pense que c'est lié aux élections et il faut s'en méfier. Voilà. Pour répondre à votre question, donc après, en tant que parent, on a donc des solutions vers les maisons des adolescents. Il y a des associations également qui sont disponibles souvent. Alors, je ne sais pas si la tienne l'est, mais on a des associations de famille, notamment. Je pense à l'UNAFAM, qui est une association nationale de parents et amis de personnes atteintes de troubles psychiques, et de plus en plus on voit arriver des familles d'enfants et de jeunes. Et puis après, alors un geste plus citoyen et parental presque, qui est de très vite, très tôt, très jeune, de dire à nos enfants qu'ils ont le droit d'aller pas bien. Parce qu'on est dans une société où être un peu différente, se sentir pas bien, bah, c'est souvent bizarre, et ça augmente les troubles. Et c'est souvent facteur aggravant d'ailleurs dans les prises en charge derrière. On a le droit de ne pas être bien, on a le droit d'avoir des moments où on ne va pas bien et on a le droit d'aller en parler. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment précisément.
Oui,
il y a
une question là. Moi j'avais une question et une remarque. Plusieurs, on va dire. Quand vous avez attaqué votre introduction, vous avez dit que le Covid était une chance. Moi, je sais pas, parce que en fait, il aurait pu être un révélateur et quelque chose qui aurait pu aider la psychiatrie. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous dites, parce que je pense que vu que vous l'avez évoqué aussi, que la psychiatrie n'est pas encore de la médecine, aujourd'hui, comment on peut résoudre tous les problèmes qu'on a sans moyens, ça va être compliqué, donc c'est pas vraiment une chance. Après, peut-être c'est une chance que ça se révèle dans certaines personnes. Après, je voulais aussi rebondir par rapport au parcours de soins. Je pense que les maillons que vous avez peut-être oubliés, ce sont aussi les proches.
Oui, bien sûr.
Qui sont aussi des gens qui doivent être, vous l'avez plus ou moins dit, après, par rapport aux gestes de premier secours, enfin, entre guillemets. Et aussi, moi, pour moi, le médecin traitant est une personne qui est aussi, à juste titre, une des personnes qui peut être un premier maillon et qui a été aussi oubliée pendant la crise. Mais par contre, je pense qu'aussi, un tort que j'ai eu par rapport à mon expérience personnelle, c'est le fait que, il y a très longtemps, alors moi je n'ai pas la culture des chiffres ni de toutes les données, on a donné la prescription des médicaments, des anxiolytiques et des antidépresseurs aux médecins généralistes, qui, moi, à mon sens, c'est vraiment un non-sens médical. Dans le sens où, quand vous n'allez pas bien, justement, le médecin, au lieu de vous renvoyer vers des gens qui sont vraiment compétents à ce moment-là, vont avoir un peu la mémoire là. Est-ce que c'est médicament? C'est très bien, je pense que je ne suis pas là pour juger s'il faut ou pas utiliser des médicaments. Et après, il y a aussi d'autres thérapies et que la médecine se reste. Après, ça c'est un point. Et il y a des choses aussi sur lesquelles il faudrait peut-être plus agir, c'est-à-dire la prévention. Et aussi, un point que vous n'avez pas évoqué, c'est tout ce qui est médecine douce. Et que la médecine, entre guillemets, générale, pour moi, souvent se refuse à pouvoir exploiter. Et si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas avoir une médecine avec des médicaments et une médecine douce. C'est-à-dire qu'il faut faire un parallèle et savoir travailler avec les deux et pas s'opposer les uns aux autres.
Voilà, on ne pouvait pas tout lister et tout ce que vous avez évoqué, bien évidemment, on est parfaitement d'accord, je pense, l'une et l'autre. Quand j'ai parlé du Covid qui était une chance, c'était dans le sens de faire sortir de l'ombre une problématique de la santé mentale en France qui était souvent le fait que des gens concernés, en fait. C'est-à-dire que tant qu'on n'était pas concerné, on n'entendait pas tant parler que ça. À part sur des phénomènes un peu médiatiques de dépression ou de passage à l'acte, hein, mais globalement, c'était dans ce sens-là. C'est que ça mettait un peu en lumière quelque chose qui jusque-là était un peu caché, dont on parlait peu. Mais bien évidemment que c'est pas du tout une chance que cette maladie...
Je sais, mais moi
aussi, je peux l'être, et je crois que j'ai été un peu dans ma formulation, justement.
Non, mais c'est pour aussi...
Mais vous avez parfaitement raison. Après, par rapport aux médecins généralistes et au traitement, alors moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en m'installant, puisque au tout début, avant de travailler là aujourd'hui, je travaillais trop sur d'autres aspects, mais au départ, j'ai ouvert un cabinet dans le Valmont, à Marcillac. Et quand j'ai ouvert ce cabinet, ma première démarche en tant que psychologue, ça a été d'aller vers les médecins traitants. Parce que je sais à quel point, dans le monde rural notamment, c'est les premiers acteurs de la santé sur tous les plans, que ce soit mental ou pas. Et que souvent, ils sont... Aujourd'hui, on les demande... Enfin, moi, j'ai un profond respect pour les médecins traitants qui se doivent aujourd'hui de remplir avoir une base de connaissances qui est absolument incroyable. Ils ont une charge de travail énorme, ils sont épuisés. Et ils sont pas toujours, ils n'ont pas toujours le temps, du coup, de se former à tout un tas de nouvelles choses, notamment les nouvelles médications, mais aussi les autres options. Et souvent, ils sont un réceptacle. Et moi, j'ai beaucoup travaillé en lien avec les médecins traitants pour ça, aussi bien d'ailleurs sur la médication, c'est-à-dire par moment de pouvoir leur dire, bah là, sur un patient, en échangeant un peu en off, pour pouvoir avancer dans la thérapie, je vais avoir besoin d'un soutien médicamenteux parce que la personne est trop envahie, par exemple. Ou en contrepartie, dire là, je pense qu'on arrive au stade où ça va être bon, on va pouvoir commencer à diminuer. Et puis après, bien évidemment, toutes les thérapies alternatives. Alors là, enfin, pour moi, il n'y a pas, et je ne parle pas que de médecine, là, je parle vraiment de tout ce qui existe. Dans la salle, on a une personne qui est art thérapeute, on a aussi, nous, on travaille aujourd'hui, mais même dans les institutions, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé. On travaille avec des médiations animales, on travaille avec. La phytothérapie, on travaille, alors on en parlait un peu en off aussi, il y a tout un tas de préoccupations médicales aussi qui ont évolué, notamment grâce aux connaissances du cerveau, c'est-à-dire quand on parle des causes de la pathologie et des causes des maladies, aujourd'hui on n'est plus sur un versant socio-éducatif, c'est-à-dire que la cause principale, c'est pas que la famille qui dysfonctionnerait par exemple, ça a été un peu l'illusion qu'il y avait pendant des années, c'était cette idée-là. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de plurifactoriel, notamment un phénomène qui existe, qui sont les interventions biochimiques dont nous sommes victimes, parce qu'on parle de biochimie du cerveau, donc forcément, il y aura des impacts en lien avec l'environnement. Ce serait mentir que de dire qu'on n'a pas été impacté physiquement par Tchernobyl, le poulet aux hormones, la vache folle, etc., etc. Donc ça a des effets au niveau des perturbateurs endocriniens, et ça, on y fait attention aujourd'hui dans les traitements. On fait attention à tout cet aspect-là, notamment l'hygiène alimentaire, comment aussi interagir sur la pathologie grâce à ce genre de problématiques. Et puis toutes les thérapies annexes qui sont... En fait, nous, quand on discute aujourd'hui en équipe, par exemple, on n'est plus fixé sur le médicament. On est vraiment sur... comment le patient veut être acteur de son soin et par quoi il pense que ça pourrait passer aussi. Et s'il nous dit, bah, moi, ce qui me fait du bien, c'est l'art floral, eh ben, ce sera l'art floral, en plus d'autres choses, mais on va s'attacher à ça, bien sûr. Je ne sais pas si tu voulais rajouter.
Non, bah, juste que autant en cancérologie, c'est vrai qu'on ne parle pas de médecine douce, on dit médecine complémentaire. Et en psychiatrie, c'est encore loin d'être aussi... Ouais. Admis que oui, l'acupuncture ça peut aider, l'hypnose, et encore l'hypnose c'est peut-être plus validé, mais
ouais, voilà. Ça passe pour de la thérapie aujourd'hui.
Ouais. Mais il y a quand même la question de financière qui vient très vite aussi, c'est que malheureusement quand on est précaire, ce qui reste le plus accessible c'est le médicament allopathique et ses effets secondaires. Quoi. Et voilà, après il y a aussi des praticiens de médecine complémentaire qui sont vigilants sur les tarifs qu'ils proposent, mais ce n'est pas le cas partout. Et c'est encore une fois une histoire d'annuaire, de bouche à oreille, etc.
Ouais, j'ai une question. J'ai vu il n'y a pas longtemps un film, c'est, je crois que ça s'appelle les Ikikomori, au Japon, et où il parlait du fait qu'en France, c'était très semblable au Japon, parce que le système éducatif performatif dans la mesure où il faut absolument réussir, alors qu'on croit toujours que c'est le Japon qui est comme ça, mais apparemment les Japonais et en France en fait vous êtes sur le même système. Et en fait, c'est aussi un rapport avec le numérique. Et je voulais savoir si par exemple, juste le phénomène, c'est des enfants qui s'enferment dans leur chambre et qui sortent plus.
Oui,
c'est ça. Et en fait, je voulais savoir si il y a le Covid d'un côté, mais le Covid plus le numérique, je voulais savoir si il a été capable de déceler des pathologies spécifiques à la numérisation du monde.
La dépendance aux écrans, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup pointé. L'isolement social que ça peut générer, qui est paradoxal. Ce qui est important, c'est toujours de mettre de la complexité et pas, comme on a pu le faire à une époque, dire les jeux vidéo, c'est mal. Alors qu'en fait, c'était aussi des espaces en ligne où des gens se retrouvaient, qu'il y avait une vraie communauté. C'est un peu pareil sur les écrans. La question des réseaux sociaux, il y a du bon, il y a des effets négatifs, mais voilà, avoir une vision un peu globale. Après, c'est vaste, quoi, sur la question de toujours cette période de fragilité, d'arriver dans le monde. Il y a la numérisation du monde, mais il y a aussi le changement climatique, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, et comment cette génération qui débarque dans l'âge adulte aujourd'hui, franchement, qu'est-ce qu'elle a comme espoir, qu'est-ce qui reste pour tenir, quand même en plus les solidarités, quand j'avais 20 ans, c'était la pleine époque des contre-sommets, on faisait de la force politique, il y avait une force d'être ensemble, et ça malheureusement, en plus le Covid par là-dessus, j'ai l'impression que ça s'est vraiment étiolé. Et après il y a les manifs contre le climat, je pense qu'il faut faire confiance à la jeune génération pour trouver ses moyens de garder espoir. Mais en tout cas, là, je suis le bon courage, je crois.
Je me permets de répondre sur un aspect plus de repérage des pathologies. Ce qu'on a vu arriver, par contre, depuis... Et ça, c'est pas le Covid, c'était bien avant, pour répondre à la société stressante. Moi, j'ai le souvenir d'une ado, un jour en consultation, me disant, mais madame, de toute façon, j'aurais pas de boulot. J'aurai pas de travail, j'aurai pas de vie, je vais divorcer, mes enfants, je sais même pas si j'ai envie d'en avoir, et j'aurai pas de retraite, et puis je vais mourir d'un cancer. Elle me dit, franchement, vous trouvez qu'il est beau l'avenir? C'est sûr que vendu comme ça, j'avais du mal à dire quoi que ce soit, d'accord? C'est sûr qu'il y a ça, mais je crois que chaque génération porte un peu la croix de ce genre de choses, effectivement. Il y a chaque génération ses combats. Par contre, moi je m'inquiète, mais c'est un point de vue vraiment là presque personnel, quoique professionnel, de l'hyper-anxiété qu'on communique à nos enfants, qui les alimente, il est vrai, et surtout, non seulement on les angoisse, mais on ne leur donne pas les moyens de lutter contre. Et justement, le numérique vient un peu augmenter le problème, c'est-à-dire qu'au lieu de leur donner la possibilité du vide, par exemple, de réfléchir, de chercher, qui permettent de trouver des solutions à ses propres angoisses internes. Hein. À un moment, quand on se met à construire une cabane, parce que pendant 10 minutes, on savait pas, 10 minutes ou une heure, on savait pas quoi faire, et que, on sentait que ça montait un peu intérieurement, parce que les enfants, ils peuvent pas le nommer angoisse, mais c'est ça, en fait, probablement. Ça, c'est de la ressource, et c'est de la ressource pour plus tard, qui servira pour les moments où ça sera plus compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit globalement, ça ne veut pas dire que nos ados et nos futurs adultes ne seront pas capables de se ressaisir derrière. Je pense qu'ils le seront, parce que je crois en l'humanité, sinon je ne serais pas là. Mais je pense qu'on a à se remettre un peu en question sur ce qu'on leur met sur la tronche. Ouais. Moi, je suis maman et je sais que j'y fais attention.
Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire et pour rejoindre un peu l'avis de monsieur. C'est que je trouve qu'on est dans une société qui est un peu d'ingénierie sociale, je sais pas si vous... Et si vous voulez, ça fait une grosse vingtaine d'années. Donc quand vous voyez l'évolution de la société, alors, moi je suis encore moitié jeune, on va dire, mais moitié jeune, moitié vieux, mais quand vous voyez l'évolution, par exemple, de la télévision, des réseaux sociaux, rien que la télévision qui était, pour des gens qui n'ont pas connu, peut-être dans cette salle à 20 ans, avant, vous voyez des dessins animés tout gentils, etc. Et maintenant, vous allez voir soit de la violence, soit soit de la télé-réalité qui est complètement débile et qui est sûrement pas fait pour qu'on réfléchisse. Et je vais rebondir sur un thème aussi, c'est l'éducation. L'éducation, on n'est pas dans... Est-ce que vraiment l'éducation, c'est vraiment du formatage ou de l'éducation? C'est là, et si vous voulez, on va pouvoir poser beaucoup de questions. Mais l'évolution de la société, on dirait qu'elle est martelée. Alors aujourd'hui, si vous rajoutez cet événement mondial...
Après, alors, par rapport juste à la télévision, et puis après on va s'arrêter là, parce que c'est pas tout à fait les enjeux de la soirée quand même. Faites confiance à vos jeunes. C'est-à-dire que moi, j'en ai trois à la maison, par exemple, des ados, et ça fait partie des thèmes sur lesquels on échange régulièrement. Ils n'ont pas accès à la télé de manière spontanée et perpétuelle, parce qu'ils n'ont pas de chance, ils ont une maman psy et un papa éducateur spécialisé. Autant vous dire qu'ils sont dans la merde. Ouais, ils sont mal barrés, là. Mais une chose est sûre, c'est que quand on parle avec eux, en fait, ils le prennent avec beaucoup de dérision. Ils critiquent beaucoup. Ils regardent le modèle parce que ça fait partie de leur génération, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas la capacité de le critiquer et d'en voir les côtés néfastes. Après, là, on parle d'ados. Là où c'est plus inquiétant, c'est sur les plus petits qui n'ont pas encore peut-être la matière pour avoir conscience de l'irréalité. Et voilà. Mais ça, c'est encore autre chose. Les sociétés, elles évoluent au fur et à mesure, et les pathologies évoluent avec les sociétés aussi. Et aujourd'hui, on a plus d'enfants anxieux peut-être, mais aussi parce qu'on y fait plus attention qu'avant. Donc il y a des choses à nuancer. Voilà. Par contre, dans les problématiques de santé mentale, c'est sûr que ça fait partie des choses qui nous interpellent, qui nous questionnent, et sur lesquelles vous parliez de prévention. On essaye de travailler en prévention là-dessus. Il y a des préventions à l'école aujourd'hui, il y a des préventions dans les collèges et les lycées. Il y a des choses qui sont dites aujourd'hui, je pense, beaucoup plus que ça ne l'était. Il y a encore, enfin moi quand j'étais ado, on ne parlait pas des maladies psychiques. On ne parlait pas, c'est à un moment où on a vu apparaître le boom des dépressions, là, où, avec les médicaments, notamment venus des États-Unis. Mais on ne parlait pas des vraies maladies psychiques, celles qui existent depuis probablement la nuit des temps, parce qu'elles sont propres à l'être humain. C'est une création aussi. C'est du positif aussi, quelque part.
J'ai un petit corollaire aux ennuis du système aussi, c'est dans les lycées la disparition des infirmières d'établissement, qui étaient des lieux
de repérage.
Voilà. À partir de là, il y avait un dialogue qui pouvait rester sur des choses qui étaient impossibles, sur des dialogues impossibles en classe, avec l'administration générale. Là, c'était un refus. Elles disparaissent les unes après les autres. Et avec 7000 élèves par
première. Oui. Je voudrais juste revenir sur l'accompagnement des familles quand il se trouve un enfant ou un ado malade, vraiment par exemple très malade. Non, je n'ai pas besoin, j'espère qu'on m'entend.
Ah ouais,
je voulais dire l'accompagnement des familles lorsqu'il arrive un ado ou un jeune très malade par exemple. Et souvent, moi c'est avec ma famille en Ille-et-Vilaine, hein, c'est pas dans l'Aveyron. Et la psychiatrie, les psychiatres renâclent à parler aux familles. Ils se sentent, comment dire, dans la toute-puissance peut-être, j'en sais rien, enfin moi je le sais. Et les familles se retrouvent à gérer leur jeune quand ils sortent par exemple de l'hôpital. Bon, alors il y a CMP et tout ça, mais il manque énormément de... Il n'y a plus d'infirmière psy, il n'y a pas de psycho, enfin bon. En Ille-et-Vilaine, ça doit être pareil ici. Et on est vraiment démunis. Alors je sais qu'il y a des associations là, mais souvent c'est très dur, quoi.
C'est une réalité.
Voilà. Et la psychiatrie et le psychiatre, ou la psychiatre, a du mal à avoir un dialogue avec la famille.
On a évoqué tout à l'heure l'UNAFAM. Il se trouve que je suis adhérente et formatrice pour l'UNAFAM, notamment auprès des familles. C'est vraiment, pour moi, c'est un cheval de bataille important. Mais ça rejoint ce qu'on a... C'est la même chose que pour le patient, en fait. C'est-à-dire que trop longtemps, la psychiatrie, elle est restée un peu sur ses compétences, sur son univers, avec un... Alors, je ne sais pas, est-ce que c'était par peur de partager ses incapacités ou ses questionnements, parce que on est face à des questionnements dans ces métiers, c'est aussi ça qui est formidable. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a aujourd'hui encore des anciens psychiatres, anciens modèles, avec des difficultés à aller vers les familles. Après, alors, il reste quand même une dimension qu'il ne faut pas oublier, qui est importante, c'est que quand on parle d'un enfant, on parle d'un mineur. Donc, de toute façon, la famille, elle est forcément informée et inclue, sans forcément être écoutée. Mais je parle d'être informée.
On va informer.
Elle est tenue au courant, il y a quand même un minimum, puisqu'il y a des droits. Ça n'est plus du tout le cas à partir du moment où on est chez des adultes, et ça c'est un vrai drame parce que trop souvent d'ailleurs les familles récupèrent les jeunes adultes à domicile et c'est eux quand même qui continuent de porter. Donc ça, les mettre de côté, c'est souvent un peu hypocrite et on milite beaucoup pour que ce ne soit pas le cas. Dans l'Aveyron, on a des psychiatres qui sont très adhérents à la parole et à l'échange avec les familles, avec les proches, avec le patient, parce que tout ça c'est un peu la même idée quand même. Maintenant, après, il y a la mise en œuvre au quotidien et dans les moyens qui nous sont alloués. Malheureusement, ça reste trop peu. C'est-à-dire que c'est encore trop difficile de pouvoir être... vous l'avez dit, il n'y a pas forcément les infirmiers, il n'y a pas un patient quand il vient en consultation... souvent, ses proches ne peuvent pas intervenir sur la consultation. Mais ça aussi, ça change. Moi, je le vois dans les pratiques depuis quelques années où on a des psychiatres. Alors, il y a des modalités différentes pour les interpeller. C'est-à-dire que peut-être pas en direct avec le patient, mais par un courrier, par un coup de fil en amont. Voilà, il y a des choses qui existent. Mais c'est vrai que c'est une grosse détresse, oui.
Oui. C'était juste une question de... compréhension. On a parlé de contrôle des lieux de privation de liberté, je ne sais pas ce que c'est.
Contrôleur des lieux de privation de liberté, c'est une instance officielle mais qui a un pouvoir seulement de recommandation, ça ne s'impose pas cette décision, mais on peut la solliciter quand on est témoin ou victime d'une situation de privation de liberté. Et c'est une personne, donc c'est Daniel Simoneau, qui est maintenant contrôleur, qui fait aussi des visites, soit programmées, soit spontanées, à la fois dans les prisons, dans tous les lieux de privation de liberté, donc prison, établissement pénal pour mineurs, et l'hôpital psychiatrique aussi.
C'est national.
C'est national. Et vraiment, le site est très complet, toutes les recommandations sont affichées. Et elle est souvent c'est des postures que moi je trouve assez rares dans la bouche d'un représentant de l'État.
C'est elle par exemple qui a fait sur les gardes à vue, on a entendu à la radio il n'y a pas longtemps, elle a fait un rapport sur les lieux de garde à vue qui sont immondes.
Ah oui, ça.
Elle a fait remonter le ministre. Elle a dit non. Pas comme ça, il ne faut pas exagérer et tout. Et c'est vraiment une personne importante, je trouve, dans notre société.
Oui.
Tout à l'heure, vous parliez de. Dans le bouche à oreille par rapport à des soignants qui pourraient être plus ouverts, en tout cas plus arrangeants. Est-ce que du coup ces informations-là, elles ont été centralisées dans un annuaire ou quelque chose comme ça, ou comment ça se
fait ? Non, c'est un bouche à oreille, ça ne peut pas se poser.
Je sais, pour la gynéco, ça se fait par exemple.
Voilà. Par exemple, les gens creusent, quand on en a parlé, il y a chez eux des gens fanatiques de cartes. Et donc, quand on a commencé à évoquer ça, il y a des gens qui sont mis à se dire « Ah, mais moi, ça peut m'intéresser de faire un site équivalent à celui... » Je ne sais pas du coup si vous connaissez le site Gynenco, qui est un site national, qui permet où des personnes se recommandent, telle sage-femme, tel gynécologue, dans tel département, avec des critères, parce que c'est pas juste... Parce que la manière facile de contrecarrer ces initiatives, c'est de dire... Mais un psychiatre qui marchera, ou une psychologue qui marchera pour moi, ça ira pas à l'autre. Mais en fait, si on peut donner des détails de pourquoi j'apprécie, qu'est-ce qui se passe bien, à quel endroit elle est respectueuse, cette personne, etc. Et donc, il y a des... moi, c'est quelque chose qu'on a porté à Toulouse, un annuaire, via une liste mail qu'on avait, je vous passe les détails. Mais moi, ça m'intéresse vraiment de pouvoir porter ça aussi en Aveyron. Donc ce serait répertorier des témoignages de personnes qui recommandent des praticiens ou qui en blacklist aussi. Et là, très vite, ce qui frétille, c'est le risque juridique, parce qu'on ne peut pas faire de publicité pour des médecins. Mais ça aussi, c'est périmé par rapport à ce qui se passe sur Internet. Où tu mets des étoiles à ton psychiatre en disant
« Oui, super !»
Tu mets 25 commentaires, voilà. Donc bon, il y a un truc à se réapproprier de ce côté-là. Moi, ça m'intéresse. Et ce qui existe en ligne en termes de collectif de... Moi, je vais formuler ça différemment. Il y a un collectif qui s'appelle PsySafe Inclusif c'est les praticiens eux-mêmes qui se revendiquent comme vigilants sur leurs pratiques pour accueillir des personnes racisées, pour accueillir des personnes trans, pour accueillir des personnes queer, non-binaires, tout ce que la société a encore du mal à conscientiser, qui se passe, qui était déjà là avant, juste qui était tellement opprimé, réprimé et impensable que ça n'avait pas d'espace pour être dit. Aujourd'hui, encore une fois, grâce aux réseaux sociaux, quand même, les choses changent. Et ça s'impose un peu au milieu du soin de dire, ben si, des personnes trans, en fait, il faut pouvoir les accueillir dignement et elles ont le droit d'être appelées par le pronom qu'elles choisissent. Donc voilà, c'est de l'ordre de la conviction, mais pour moi, ça fait partie des droits humains, c'est les droits fondamentaux. Il faut prendre conscience comme ça. Et donc, il y a des soignants qui se sont positionnés comme étant particulièrement vigilants dans leur pratique et ils ont un site en ligne, PsySafe Inclusif. Malheureusement, c'est encore pas sur toute la France.
Je ne sais même pas que ça existait.
Ouais. Et à Toulouse, du coup, maintenant c'est. Parce que c'est une initiative toulousaine au départ, et maintenant c'est l'association des soignants queer et féministes, SQF, qui font aussi de la formation maintenant pour les professionnels, dans l'idée toujours de former, déguiser un peu les pratiques.
Après, il n'y a pas de liste officielle, mais vous avez des tas d'associations qui ont leur propre liste, en fait. Vous l'avez dit, c'est du bouche à oreille. Donc, c'est... par exemple, je sais que l'une à femme a... entre familles, on se passe des trucs. C'est normal. Nous-mêmes, soignants, moi, je suis pas affiliée à Sainte-Marie, mais par contre, je travaille en lien étroit avec Sainte-Marie et surtout le département. On sait avec quel psychiatre on pourra... travailler certains aspects plus que d'autres, avec quelle équipe on pourra travailler ça, avec je crois que dans tout corps de métier, de toute façon, ça existe. Et il faut juste avoir un membre d'entrée, en fait. C'est tout.
Mais par ça, le privilège d'avoir cet accès, c'est la problématique de l'accès à l'information.
Peut-être.
Quand, par exemple, moi, je suis arrivée en avion, je ne connaissais pas grand monde dans le coin. Ça a été difficile pour moi de savoir à qui m'adresser, notamment avec la désertification médicale, etc. Quand il faut déjà aller à une demi-heure de chez soi pour trouver un psychothérapeute, c'est compliqué.
Non, il y avait les médecins traitants aussi, qui, mine de rien, ils ont aussi leur petite banque de données.
Juste un petit problème de vocabulaire. Tu avais parlé au début de ta présentation de bouffées délirantes. Qu'est-ce que c'est que des bouffées délirantes ?
Je vais parler de celles que moi j'ai vécues. Oui. Du coup, cette idée de bouffées délirantes, c'est l'idée de bouffer, donc quelque chose d'assez soudain. Et délirant, c'est... de perte
de la réalité. Du sens de la réalité.
Ou en tout cas, multiplication des réalités aussi, parce qu'on peut avoir encore des repères de base et arriver à fonctionner avec la famille, par exemple, mais avec des couches d'enjeux qui se superposent. Et après, il y a toute une gamme comme ça on pourrait dire de symptômes ou de pouvoir, on pourrait dire. Donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de voix, j'ai entendu beaucoup de voix, j'ai eu aussi des hallucinations visuelles, olfactives, et petit à petit, ça s'agrège et ça fait, on interprète, on met du sens là-dessus et ça commence à faire système et ça fait délire. Du coup, je sais pas, pour être plus cash, on va dire, moi, ma première bouffe, premier jour, j'étais le Messie. Et il fallait que je répande l'anarchie sur Terre de manière douce et non violente. ça m'est tombé dessus comme ça. Bon, et ben voilà, c'est une composante délirante. Après, c'est très signifiant de, à 20 ans, chercher sa place dans le monde. C'est qu'au-delà du symptôme, pour moi, ce qui est important, c'est de prendre le temps de questionner la personne sur qu'est-ce qu'elle vit, en fait, en ce moment. Qu'est-ce qui vient nourrir ces convictions-là. Et à 20 ans, chercher sa place dans le monde, c'est à peu près la base. Mais moi, on ne m'avait pas appris, voilà. Ni à le dire, ni à l'identifier, etc.
Je m'endormirai moins bête.
Et après, si, un truc important pour moi de nommer, c'est que quand moi j'ai eu la chance d'avoir un psychiatre qui à chaque fois m'a dit bah, vous faites une bouffée délirante, mais après ça s'apaise et vous reprenez une vie qui vous satisfait. Après, j'ai fait des études d'infirmière bien plus tard. Et on disait que dès la première bouffée délirante, il y a suspicion de schizophrénie. Et en fait, ça, et chez les familles, et chez la personne, et chez les praticiens en face, ça induit direct un déterminisme qui, pour moi, est OK, on peut parler de diagnostic précoce et des enjeux de pouvoir accompagner la personne, tout ça, mais ne pas être aussi sûr de soi que parce qu'elle fait une bouffée délirante, elle va en faire une deuxième, une troisième, et après ce sera la schizophrénie. Quelque chose un peu à questionner comme ça de cette supposée science de la psychopathologie qui, heureusement, n'a pas réponse à tout et n'est pas visionnaire dans tous les aspects de la vie.
Moi, j'avais une petite question de l'ordre de paradigme, mais c'est une idée qui n'est pas bien du tout la psychiatrie, mais j'avais entendu parler d'une école de pensée, enfin, la psychiatrie institutionnelle, et en Isère notamment, je pense à Saint-Alban, il y avait, j'ai plus le nom de
Saint-Alban
sur les médias, et c'est vraiment qui était passé là, et voilà, apparemment c'est passé de mode, enfin, ça a été un peu balayé, et pourtant je trouve que ça fait un peu écho, par exemple, ce que tu disais, Louise, enfin, la question de l'abandonnement par les proches, le principe, c'est de... Je ne sais pas si vous en parlez.
Vas-y.
Ouais. Il me semble que c'était de responsabiliser, de donner une place qui n'était pas responsabilisée, mais donner une place aux personnes soignées dans l'institution, de se dire qu'en fait, voilà, on n'est pas incompétent, on garde des capacités, en fait, d'intégrer les personnes dans le fonctionnement de la vie en commun dans les établissements. Et voilà. Et je dis par rapport à ce que tu disais, dans les démarches collectives, de se dire que telle personne, on peut s'accueillir, on crée du lien des réseaux, ça, pour moi, ça rejoint un peu ça. Est-ce que ça vous parle en fait? Est-ce que
c'est quelque chose? La psychiatrie institutionnelle, ça s'est développé après-guerre, avec Lucien Bonafé, Jean Houry, des gens qui avaient connu, Bonafé qui avait connu les camps, et qui, bref, ça c'est une autre question, et qui reconnaissait en fait dans le milieu asilaire des éléments des camps de concentration. Il y a eu des dizaines de milliers de morts de faim dans les asiles en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bref, et la psychiatrie institutionnelle, effectivement, pensait l'établissement, l'institution, comme soignante en tant que telle, avec des pratiques comme des médecins qui n'avaient pas de blouse, avec le fait que le technicien, le jardinier avait tout autant de capacité à prendre soin et accompagner la personne que le psychiatre ou l'infirmier. Et le fait, oui, de participer aux tâches collectives, de faire ensemble la cuisine.
C'est la clinique de la Borde qui est bien connue.
Voilà, la clinique de la Borde, Saint-Alban. Et il y a quelques institutions qui en gardent encore une trace, qui résistent parce que ce n'est pas compatible avec la T2A, par exemple. Ouais.
L'IRLS,
peut-être.
Oui,
c'est pas compatible.
Et il y a encore, oui, il y a 130 ans.
La T2A, c'est la tarification à l'acte. Ça, ce sera la politique tarifaire.
Et voilà, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un mouvement un peu en résistance, parce que même à la clinique de la Borde, après la mort d'Houry, les blouses sont réapparues, c'est difficile de tenir encore ces pratiques-là aujourd'hui.
Ouais, alors moi je mettrais en plus une modification, c'est que la thérapie institutionnelle, comme son nom l'indique, elle partait d'une institution.
C'est-à-dire qu'il fallait un lieu. Et aujourd'hui, à cause de la tarification par exemple, mais pas que, on sort des lieux. D'abord parce que c'est aussi la demande de nos patients. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus être dans un lieu fixe. Ils veulent avoir un lieu qui leur appartient, leur chez eux. Et en fait, la thérapie institutionnelle, aujourd'hui, elle ne se nomme plus comme ça, mais elle continue d'exister, notamment dans tout ce qui se passe au domicile. Puisque aujourd'hui, nous, on accompagne nos patients dans leur vie quotidienne tous les jours. Il n'y a pas les blouses. On n'est pas, on leur dit même pas d'ailleurs, on a même un système de fonctionnement où il n'y a pas de profession. C'est-à-dire qu'on est des accompagnants, mais ils ne savent pas si c'est psy, infirmier psy, si c'est éduc. Ce qui compte, c'est où chacun va aller apporter sa pierre dans l'accompagnement global de la personne. Et donc, je pense que la thérapie institutionnelle, elle perdure, mais plus dans le sens où elle a existé, effectivement, institutionnelle du terme. Mais elle s'est éparpillée à l'extérieur parce que c'est un peu plus aussi ce que nous demandent nos patients, c'est de ne plus être enfermés. Donc, ils ne veulent plus être enfermés pour beaucoup. Et du coup, il a fallu mettre la thérapie ailleurs que dans l'enfermement. Mais c'est la même idée. Mais c'est vrai qu'il a dit pas mal de temps.
Puis avec cette, quand même, ce qui est pointé par des gens sur l'importance encore de garder des établissements, c'est qu'il y a plein de personnes en très grande souffrance, qui à domicile ne sont pas bien, et qui ont besoin de vraiment l'asile dans cette notion de refuge, et qui ça est malmené par les fermetures de lits et la pression à l'ambulatoire, le fait d'être soigné en ville, depuis chez soi, mais quand chez soi ça ne va pas. L'hôpital pouvait avoir encore une fonction de refuge et des gens qui allaient de temps en temps, aussi pour ne plus avoir à faire à manger. Là, c'est encore d'autres questions.
J'ai pas rebondi tout à l'heure quand tu parlais de dans ton adolescence, à la sortie de l'hôpital, quand tu t'es retrouvé dans une maison. En Aveyron, ça existe. C'est-à-dire qu'on a aussi des systèmes développés. D'habitat hors, enfin de l'hôpital hors les murs en fait, notamment financé par l'hôpital. Hein, il y a un bâtiment qui existe, une maison pour certains malades qui le souhaitent. L'idée étant de les préparer progressivement à retrouver leur autonomie. En fait, c'est plutôt une démarche. Donc il y a ça, il y a des appartements thérapeutiques avec un maintien du soin, mais quand même une intimité et de l'autonomie dans les actes du quotidien. Le CRPS, le Centre de Réhabilitation Psychosociale, avec, pareil, pour ceux qui connaissent Rodez, c'est le bar thérapeutique en bas, et en haut, il y a des appartements où les personnes, pendant 2 ans, vont payer le bail, mais ils vont être un accompagnement vers une sortie à domicile plus réelle. Et puis après, il y a tout un tas de dispositifs non portés par l'hôpital, notamment par les organismes de tutelle, parce qu'on a beaucoup de nos patients qui sont malheureusement amenés à être sous protection aussi bien au niveau financier que juridique. Pas forcément parce qu'ils sont dangereux ou incompétents, mais parce que par moments, ce n'est pas leur préoccupation. Et comme je vous l'ai dit, ils sont vulnérables, donc ils ont besoin d'être protégés. Et donc, il y a des organismes comme l'UDAF qui ont créé... alors, avec l'UNAFAM, il y en a une à Decazeville qui a ouverte. C'est une résidence accueil, c'est-à-dire que le principe, c'est d'avoir un habitat semi-collectif. C'est-à-dire qu'il y a des appartements privés dans du collectif avec un espace collectif ressources, souvent au rez-de-chaussée, pour pouvoir partager des repas, échanger. Puis c'est l'occasion aussi de pouvoir être en groupe entre pairs. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives qui existent encore. Et on ne peut pas tout détailler, mais il y en a plein.
Il y a des listes d'attente quand même. Hein.
Malheureusement, comme partout, je crois, c'est embouteillé. Oui.
Oui. Quelle est l'incidence sur vos pratiques du classement américain des maladies? Enfin, parce que c'est souvent présenté comme une façon pour les laboratoires de vendre des nouveaux médicaments à chaque nouveau trouble qui peut être trouvé. Et je pensais par exemple à ce nouveau trouble qui a pris de l'ampleur depuis une dizaine d'années, qui est la bipolarité. Qu'est-ce que vous en pensez de cette notion-là?
Alors d'abord, la bipolarité, elle n'a pas pris de l'ampleur depuis des années, c'est juste une manière de renommer une pathologie qui était déjà présente, mais nommée différemment. Donc pour celle-là, ce n'est pas un nouveau trouble. Par contre, on voit apparaître depuis de nombreuses années des tas de troubles régulièrement. Alors il y a tous les troubles autistiques, il y a... le pervers narcissique, il y a, je sais pas, qu'est-ce qu'on... Il y en a plein qui surgissent régulièrement. Alors, par rapport à la nomenclature, en fait, vous faites référence à la Bible des médecins qui s'appelle le DSM, qui est une nomenclature générale, effectivement, américaine, mais pas que, puisque c'est vraiment quelque chose qui est mondialement utilisé. Donc, il ne faut pas non plus les traiter un peu comme les vilains qui déterminent. Ça vient aussi, c'est alimenté par des connaissances qu'on n'avait pas. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé mes études de psycho, on en était au DSM-4. Aujourd'hui, on en est au 6, parce que c'est revalorisé régulièrement en fonction de la recherche et de l'évolution de la recherche médicale. Et notamment, il y a plein de pathologies neurologiques qui n'existaient pas à l'époque. Et du coup, qui ont aussi des incidences sur des troubles psy, avec des troubles psy. Je pense par exemple à toutes les maladies neurodégénératives dont on parle peu, mais qui ont souvent des conséquences avec des troubles psy associés, notamment sur le vieillissement, mais pas que. Parce que ça, c'est un peu méconnu. Et entre parenthèses, ça pose des questions sur les prises en charge, parce que du coup, on est sur des doubles prises en charge. Voilà. Mais après, par contre, sur comment ça nous influence. Je vais revenir plus sur la notion qu'a évoquée Héloïse, qui serait la notion de diagnostic précoce. C'est une bonne chose, c'est quelque chose qui peut être utile et important en termes de prévention et de meilleure appréhension de la pathologie. Là où ça peut être inquiétant, c'est quand on rentre dans quelque chose de trop médical, c'est de mettre des étiquettes fixes sur des gens sans prendre en considération leur évolution potentielle, l'éventuel rétablissement. Et voilà, c'est en ça qu'il faut se garder, mais je crois que les médecins aujourd'hui, c'est la grosse problématique de la psychiatrie justement, c'est qu'elle appartient à la branche médicale, mais elle se doit d'être aussi ouverte à des systèmes de fonctionnement qui ne sont pas aussi figés et rassurants que dans la médecine, parce qu'il y avait ça aussi, hein. Un symptôme, une pathologie, un soin, et puis voilà, la psychiatrie c'est pas ça, c'est plus complexe. Donc on y reste à l'affût, il y a des choses qui sont très intéressantes, mais il faut qu'on fasse attention perpétuellement, je crois.
Tu sais, il y a certains courants, en Angleterre et en Belgique notamment, des associations de psychologues qui ont milité pour pas avoir à poser de diagnostic sur la personne, ni à valider les diagnostics qui étaient proposés par les psychiatres. Dans cette idée de pouvoir, que c'est aussi un biais du coup de compréhension de la personne, et que si on veut la prendre dans sa complexité, dans sa réalité, ben, des fois ne pas savoir s'il y a un terme de schizophrénie qui a été apposé sur elle, ou de borderline, ou de bipolaire, etc., ça permet encore d'avoir une autre forme de soins et d'échanges. Cette question du diagnostic, elle est assez riche aussi pour les personnes, pour les personnes concernées. Il y a des gens pour qui se voir reconnaître un diagnostic, je pense notamment sur une borderline, ça peut être une libération, parce que jusque-là, on le trouvait juste très chiant dans le travail, très chiant, très compliqué, très à clasher tout le temps. Et à un moment, ils peuvent dire, en fait, non, moi, je suis borderline, je n'ai pas choisi, je ne suis pas en mesure d'avoir prise sur toutes mes émotions, mes réactions comme t'aimerais que je l'ai. Certains disent c'est ma maladie. J'ai besoin de dire que c'est une maladie et d'être reconnue comme malade avec ce qu'on accorde comme compassion et comme attention à une personne malade. Et d'autres qui diront que le diagnostic, ils ne se reconnaissent pas dedans, ils veulent s'en passer et ils ne veulent pas de la logique de soins qui va avec. Mais ce qui est important pour moi, c'est de donner accès à toutes les compréhensions, tous les positionnements autour de ces questions-là.
Peut-être que les questions se tarissent. On avait les jeux dernières questions, on avait invité il y a 6 ou 7 ans M. Bokobza. Et qui avait parlé justement du DSM et le DSM à l'époque venait de paraître, le 6, et leur groupement, je ne me souviens plus si c'était les 40 ou les 30,
les 39, collectif des 39. Voilà, entre les deux.
Mais...
Presque, presque 40.
Voilà, c'est ça. Mais ils étaient vraiment très critiques par rapport à ça, surtout l'utilisation qui en était faite pour, effectivement, ça y est, celui-là, il est comme ça, donc c'est ce médicament, cette molécule. Et c'était, ça avait été quelque chose de très riche, il y en a peut-être qui y étaient dans cette soirée-là, mais ça avait été très, très riche d'échanges, justement, sur l'évolution de la psychiatrie, et puis déjà le manque de moyens en psychiatrie en face. Voilà. Ouais. Bon, je pense que on n'a peut-être pas fait le tour de la question. Voilà. En vous remerciant, vous faites les deux.